si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct dans cette émission du lundi 3 février 2025. Alors aujourd'hui, on va parler de la question des EHPAD, la répression syndicale et la liberté d'expression. En effet, en janvier 2022, avait démarré une grève à l'EHPAD de Neuville, donc du château de Neuville. Cette grève suivait beaucoup de moments d'enquête qui avait été menée dans les EHPAD. Alors les EHPAD, rappelons quand même ce que sont les EHPAD, c'est les établissements pour personnes dépendantes. Et donc il y avait plusieurs enquêtes menées, un livre a été sorti d'ailleurs, hein, puisque c'était le livre de Victor Castanet, les Fossoyeurs. Et en janvier donc 2022 a démarré cette grève. Et on va en parler avec deux des personnes qui ont suivi cette grève et qui aujourd'hui sont poursuivies aussi pour avoir suivi cette grève. Donc Siam Toisi qui va nous rejoindre. Et en studio, nous sommes avec Eugénie Barbeza. Alors, je vais te laisser te présenter déjà. J'ai commencé à le faire, mais je vais te laisser te présenter plus proprement.
Bonjour Joël, merci de l'invitation déjà. Effectivement, alors Siam Toisi, elle a pas fait que participer à la grève, elle va nous rejoindre, elle est dans le métro, elle arrive, hein, et elle a juste instigé la grève en fait, parce qu'elle n'en pouvait plus, elle et ses collègues n'en pouvaient plus, de la forme de maltraitance institutionnelle de cet établissement, l'EHPAD géré par le groupe éponymiste, petit groupe familial mais groupe très financier, hein, dans ce château aux allures...
Bucolique,
même plus que bucolique, enfin ouais. Majestueuse en fait. Voilà, les gens qui y mettaient leurs personnes âgées, leurs familles, étaient contents d'avoir un beau parc. Tout simplement, il n'y avait personne pour accompagner les gens dans le parc, par exemple. On voyait le parc, mais à travers la fenêtre pour les vieux. Donc franchement, c'est un petit peu trompeur comme image, une image bien lisse, bien bourgeoise. Et en fait, à l'intérieur, des gens qui trimaient en étant surveillés, en ayant... une douche par semaine pour pouvoir, ne pouvant donner qu'une douche par semaine aux résidents, 10 minutes par douche sinon c'est pas possible, enfin voilà, tout était rationné, les protections, le sirop, une seule madeleine, voilà, les gens cachaient du pain dans leur chambre pour pouvoir manger, enfin voilà, on en était là aussi dans cette EHPAD, et Siam et ses collègues ont fait une grève assez héroïque, elles étaient installées devant le château, elles essayaient de sensibiliser, appuyées par la CGT, les familles, les gens qui venaient, le public, elles ont été très soutenues. Et c'était l'hiver, tu l'as rappelé, il faisait froid. Et elles étaient là avec leur thermos et leur bonne humeur. Et surtout, leur revendication de faire bien leur travail et de ne pas devenir malgré elles maltraitantes. Donc en cela, ça faisait tout à fait écho à ce que dénonçait Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs quelques mois avant. Ah. Et donc la répression, sciemment par là, pour elle, s'est tombée très vite. Virée, harcelée, il y a eu des dossiers montés contre elle.
Enfin, voilà. C'était une cabale. Hein.
C'était une cabale. Ça a été...
Alors, on est situé près de Cergy-Pontoise, hein, dans le Val-d'Oise. Hein. C'est vraiment voilà, un lieu, on l'a rappelé, Château de Neuville. Comment toi, tu es poursuivi du coup ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, on est sur deux choses, c'est-à-dire répression syndicale et liberté de la presse aussi. Donc toi, comment tu arrives dans cette affaire du coup ?
Alors moi, j'arrive dans cette affaire parce que alors, je suis journaliste, je suis salariée à l'Humanité, au journal Humanité. L'Humanité a couvert cette grève. Et avant, moi, j'en entends parler parce que je suis aussi journaliste dans une radio Ami, cause commune, radio associative comme FPP, hein, radio sans thune, où je suis bénévole, où voilà, on est tous bénévoles, radio avec une grande liberté d'expression, liberté de ton, où j'anime Liberté sur parole, qui est une émission qui a démarré sur Radio Ali il y a 25 ans. Donc voilà, c'est une émission un peu historique, voilà, de la bande FM libre, où bah, justement c'est dédié à la liberté d'expression, où j'invite des gens qui n'ont pas souvent la parole. Et en l'occurrence, Siam, je la rencontre comment ? Je la rencontre par Gilles, mon technicien, qui va souvent au château de Neuville parce que son papa y est. Voilà. Son papa a été voilà, placé là par la famille. Son papa, il perd la tête. Il a un début d'Alzheimer, pas diagnostiqué, mais apparemment en démence sénile ou Alzheimer, qui s'aggrave d'année en année. Et il adore la nature, donc ils ont été attirés par ce beau château. Il a un peu d'argent, notamment il a une maison. Donc la maison est hypothéquée pour qu'il puisse payer les 3 à 4 000 balles par mois pour une personne seule, hein, que représente ce coût. Voilà, les enfants vont voir, ils ont été voilà, séduits par les beaux rideaux, par ils se sont dit qu'ils y seraient bien. Simplement, moi j'ai accès aussi, outre la grève, hein, j'ai accès aussi au compte-rendu de commissions de vie interne. Voilà, voilà, ce qui est envoyé aux familles, en fait, sur, bah, c'est une sorte de comité d'établissement où il est pudiquement évoqué quand même des problèmes de nourriture, etc. D'ailleurs, au procès, puisque je suis attaquée pour diffamation, voilà, le procès se tient le 6 pour diffamation pour Siam et pour moi. En ce qui concerne notre affaire commune, c'est deux émissions faites sur Radio Cause Commune où Siam est intervenu en direct du piquet de grève par téléphone et a raconté son quotidien. Et moi, j'ai fait des commentaires. Et notamment dans la deuxième émission, où je l'ai pris pour une mise à jour, en fait, voilà, quelques mois après, j'ai rappelé dans ma voix ce qu'elle avait dit. Donc, en fait, je suis poursuivie notamment par ces propos-là, en disant, ben voilà, je reprends dans ma voix, vous nous disiez la dernière fois que vous étiez harcelée, qu'est-ce qui s'est passé depuis, en fait, voilà. Et c'est pour des propos assez banals. Enfin, c'est ce que dit l'avocate. L'avocate se demande ce qu'on fout là, en fait. Enfin, ce que je fous là pour ça. D'autant que à l'Humanité, on a aussi fait des enquêtes. On est allé en reportage aussi, comme tu l'as fait toi, sur place. On a diffusé. On a eu une demande de droit de réponse à laquelle on n'a pas donné suite. Et ça s'est arrêté là. Bon, il se trouve que l'Humanité, tout le monde a sa carte de presse. Et on a un cabinet juridique qui nous assiste. Bon, est-ce que une émission multidiffusée sur une radio associative, pas avec une énorme audience, mais qui peut être multidiffusée, où on pense que peut-être les journalistes ne sont pas des vrais journalistes, en tout cas des journalistes estampillés parce qu'ils n'auraient pas de carte de presse. Enfin bon, quand on sait à qui on la donne, moi je l'ai, mais je veux dire, je n'y accorde pas une valeur. Longtemps, je ne l'ai pas eue et ça ne me faisait pas faire mon métier beaucoup plus mal. Et en fait, voilà, on se demande si ce n'est pas une procédure bâillon et c'est ce qu'on va plaider, bien sûr, à l'audience. Parce qu'en fait, les phrases incriminées, c'est genre, ah oh, bah, si j'avais un parent à mettre en EHPAD, je ne le mettrais pas là. Bon, la diffamation, c'est léger, hein, voilà.
Alors, c'est une famille qui détient peut-être toujours d'ailleurs des EHPAD, ces établissements, donc dans l'Oise aussi. Hein, c'est vraiment, on sent quelque chose de côté un peu familial, mais côté quand même financier très très fort.
Alors quoi. Oui, alors ça c'est très intéressant. Parce que justement, bon, bah, nous on était un petit peu estomaqués hein, quand on reçoit les mises en examen. Bon, j'avais jamais été... C'est la première, hein, c'est ma première mise en examen. Depuis, pour l'UMA, on m'a mis en examen un mec d'extrême droite, ancien de, enfin voilà, tenant de l'Algérie française, fanatique de Pétain, m'a aussi d'ailleurs le procès le lendemain. Donc voilà, on voit qu'on est dans une petite ambiance quand même. Et ouais. Ça, en, je sais pas, je suis pas toute jeune, hein, ça fait 30 ans de journaliste, ça ne m'est jamais arrivé. En D'accord. fait, c'est la première fois. Donc pour dire la petite ambiance, mais pour revenir à donc notre affaire qui est donc jugée le 6 après avoir été reportée au printemps dernier, à la demande de l'accusation. Eh bien, donc ils nous accusent pour diffamation sur des propos où on parle des conditions de travail. On n'attaque pas du tout l'aspect financier. Si, on dit que ça coûte cher, effectivement, 3 000 ou 4 000 euros, que c'est un groupe financier qui fait des bénéfices. Bon, on n'avait pas donné de chiffres. Mmh. Mais quand il s'est agi de préparer l'audience, la CGT a été un grand appui, notamment la branche commerce, qui ont accès à ce qu'il faudrait qu'on paye, nous, pour avoir accès, tu sais, les trucs de vérification ouais. des comptes, ces trucs-là. Donc, ils ont eu accès à tout ça. C'est public, hein. C'est des informations qu'on peut trouver en payant l'abonnement. Enfin, voilà, ils sont obligés de fournir leur compte. On s'aperçoit que pendant le Covid, ils ont fait des bénéfices, ils ont distribué de l'argent public à leurs actionnaires.
D'accord.
Donc, en fait, ça va être intéressant, ce procès. Ouais. Parce qu'en en fait, on nous accuse pour une petite chose. Mais à l'occasion, nous, de notre défense, on a découvert des choses beaucoup plus ennuyeuses, a priori, pour eux, et qui pourraient tomber sous le coup de la loi, notamment un chèque qui a été fait par le père de cette famille à sa fille pour financer sur le compte de l'établissement des travaux qu'elle a fait, qui ont été réalisés par les entreprises qui s'occupent aussi du château chez elle. Enfin voilà, D'accord. on découvre des trucs assez énormes auxquels on... On peut s'attendre à tout avec ces gens-là.
Ah,
j'arrête parce que bon, ça va encore, on va être attaqué pour diffamation. Mais effectivement, du coup, on est tombé sur des trucs assez énormes et c'est juste dingue qu'ils aient maintenu leur accusation. Mais ça va nous permettre, on l'espère, en tout cas, si à un moment, on l'espère, de mettre au jour tout ça et de voilà, qu'il y aura de la presse, on l'espère aussi. Et bah, du coup, je pense qu'ils vont peut-être regretter d'essayer de faire taire des journalistes qui pensent sans défense et des salariés qui pensent pouvoir. Juste écrasé comme ils essayent de le faire avec Siam.
Oui, parce que là, ce qui est mis quand même, ce que vous dites, hein, toi et Siam, c'est quand même, ce serait un moment politique aussi, ce procès, oui. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. On sort un peu de ce cadre d'exploitation des personnes âgées, hein, disons-le aussi. Mais là, effectivement, on est dans quelque chose de politique parce que, comme je le disais, c'est comment aujourd'hui, dans ce secteur de la santé, parce qu'on parle des EHPAD, mais aussi il y a l'hôpital qui est en mauvaise santé, hein, si on peut dire. Comment aujourd'hui on arrive à faire des mouvements pour pas seulement revendiquer, mais aussi c'est pour protéger les gens qui travaillent dedans et qui sont résidents dans les EHPAD, par exemple. Ça, je pense, c'est quelque chose d'assez important aussi à mettre en avant.
Oui, et c'est pour ça que c'est très important que dans ce procès, il y aura bien sûr des politiques hein, qui se sont intéressés à tout, notamment des gens de gauche, évidemment, hein, et qui se sont intéressés à tous ces salariés dits de première ligne, qui en fait ont mis très longtemps à bénéficier, et pas tous encore, du fameux Grenelle de la santé, qui sont payés pour beaucoup au lance-pierre, qui ont des conditions de travail terribles. C'est-à-dire que la recherche du profit à tout craint, ça se traduit par des plannings... très difficile, où on bouche les trous tout le temps, parce qu'ils ont des problèmes de recrutement. Évidemment, personne ne peut tenir dans ces métiers-là, surtout qu'on se retrouve face à des gens en vulnérabilité auxquels on ne peut pas accorder suffisamment de temps, donc on est maltraitant. Quand on n'a pas le temps de parler avec Madame Michu, qui a peur de mourir, on est maltraitant. Mmh. Quand une dame ou un monsieur reste dans sa crotte pendant toute la journée, parce que c'est ça, il faut parler des vraies choses, en fait, eh ben, c'est maltraitant. Voilà, c'est dégradant, à la fois, bien sûr, pour les résidents, mais aussi pour ceux qui n'ont pas appris ce métier comme ça, en fait. Les infirmières, les aides-soignantes, c'est des gens qui... Alors, elles ne sont pas payées, mais elles sont utiles. Et le fait de se sentir utile, je pense que c'est très important dans notre société. C'est ce qui fait que les gens ne dépriment pas. Les gens n'ont pas besoin ni envie de gagner 4 000 ou 5 000 euros par mois. Ce qu'ils veulent, c'est participer à la société, pouvoir vivre correctement et pouvoir faire quelque chose qui fait qu'on est une société, en fait. Et je pense que ça, c'est valable pour beaucoup de gens. Et on essaye de nous faire croire qu'on veut que du fric, mais c'est faux.
Et on n'arrive pas à faire ce métier par hasard, quoi. C'est qu'on le choisit. Parce qu'on part du principe qu'on va bien traiter les gens. C'est comme à l'hôpital, comme un médecin, il est là pour pas maltraiter les gens. Et on se retrouve avec des situations de maltraitance caractérisées. Et ça pose aussi cette question de la grève à l'intérieur de l'hôpital, puisque on le dit souvent, mais c'est pas comme dans une entreprise, c'est-à-dire dans une automobile, tu peux lâcher une voiture. Là, par contre, tu peux pas lâcher un être humain. Il peut mourir, quoi. Et je pense que les patrons, les États savent très bien que les gens sont vraiment, ont leur métier, comme on dit, chevillé au corps, quoi, aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça empêche aussi un mouvement de grève d'ampleur dans un hôpital. Et c'est pour ça que là, cette grève là qui a eu lieu en 2022 a été super importante.
Ah bah, elle a été très importante parce que aussi, bah voilà, ça a été une manière d'alerter les familles des résidents. Alors, il y avait une contre-offensive, si elle me le racontera, hein, de l'EHPAD, de la direction de l'EHPAD du château de Neuville, là, qui envoyait aussi des lettres aux familles en disant oh, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ce sont des petites rebelles, voilà, des perturbatrices, vous inquiétez pas, on les remplace, on va les virer, enfin voilà. Et en fait, les résidents leur faisaient coucou par la fenêtre et ils comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas le droit de sortir pour aller les voir, en fait. C'était assez fou, quoi. C'était vraiment, on voyait un peu l'ambiance quasi carcéral dans ce lieu où on paye quand même 4000 balles pour pouvoir être enfermé. C'était assez sympa, effectivement. Mais je crois qu'il y a, quelque chose, il y a un côté hautain chez ces gens où bah pour eux, c'est normal. Et puis, enfin, je veux dire, on dit du mal d'eux, mais ils attaquent quoi ? Ils ont leurs avocats, leur batterie d'avocats, les avocats, le cabinet d'avocats spécialistes en droit de la presse qui nous attaquent pour diffamation. D'accord. C'est le même qui a défendu... Bon, après ça, un avocat, il défend tout le monde. Enfin, oui, voilà. Mais ça... quand même, c'est assez symptomatique, qui a défendu Valeurs Actuelles. D'accord. Au moment de l'affaire Obono. Tu sais, okay. Qui était... Voilà. Ils ont perdu, pourvu que ça dure.
Croisons les doigts.
Voilà. Mais voilà, c'est dire aussi le genre de gens qui défendent, quoi.
Bah, ce qu'on va faire, on va lancer le petit 3 minutes qu'on avait enregistré à ce moment-là et on revient.
C'est quand tu y es allé toi, c'est
tout
ça.
À fait, quand nous avons fait ce reportage, c'était aux alentours du 10 mars. Et donc on va entendre effectivement les infirmières de l'EHPAD.
En tant que soignant, j'ai envie de dire, et je parle au nom des collègues, on se sent totalement démunis parce qu'on a choisi ce métier qui est un métier de cœur, qui est un métier d'âme, et en fait notre direction nous la retire. Alors heureusement, on a cette force de ne pas la perdre, de ne pas perdre nos valeurs, de ne pas perdre le pourquoi du comment est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Moi, je travaille dans un PASA. Je suis censée accompagner... Un PASA, c'est un pôle d'activité et de soins adaptés. Je suis censée accompagner des résidents qui ont des troubles cognitifs et des démences apparentées à la maladie d'Alzheimer. Chose qui aiderait les résidents, les familles, les soignantes à la prise en charge. Le PASA est total... Enfin, je ne pourrais pas vous dire à combien de pourcents, hein, mais limite à 90% fermé. En fait, on va nous prendre le matin du PASA et on va nous dire bah, « tu vas aller remplacer dans telle unité ». Le souci qu'il y a, c'est que des fois, ça fait 6 mois que je n'ai pas mis les pieds dans une unité protégée avec 14 résidents, où je me retrouve toute seule de 7h à 10h sans ASH, à devoir faire des levées, à devoir faire des réveils, à devoir donner à manger, à ne pas savoir la texture des aliments, à ne pas savoir les troubles qu'ils ont, 6 mois sans connaître la personne et en n'ayant aucun accès à l'infirmerie centrale.
Ça a été une incroyable aubaine pour notre direction. Elle l'a vécu comme quelque chose de formidable et on l'a vu dans la posture dès le début. Ils étaient ravis. Ravis de quoi ? Parce qu'en fait, l'établissement a fermé totalement. Fermé des familles, fermé des regards extérieurs. Et en fait, on a été livrés à nous-mêmes. Les instances comme le CSE n'avaient plus lieu. Et on devait tous faire front commun face à cette maladie que personne ne connaissait et dont l'issue était tellement incertaine. On a manqué de matériel, on a manqué d'accompagnement. Soignants, dont vraiment notre légitimité, on l'a retrouvée pendant cette période qu'on a vécue. Alors notre président a dit qu'on était les invisibles, les premières de cordée. Mais ouais, c'est la vérité. Il y avait que nous qui sortions à cette période-là. Tout le monde était face à la télévision, en train de faire de la cuisine ou en train d'avoir des activités annexes. Nous, on était au travail, sans protection, sans masque, sans gants. Et cette direction avait un établissement qui était fermé. Donc en fait, elle a décidé de n'absolument remplacer personne. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un tombait malade, hein, comme dans le reste de la France, il y avait des gens qui étaient Covid, ils n'étaient pas remplacés parce qu'on considérait que les remplaçants pouvaient nous apporter le Covid. Donc on était tout le temps à flux tendu. On se retrouvait avec des résidents extrêmement souffrants, parfois en fin de vie, et on était totalement démunis et personne pour nous accompagner. Et nous, on accompagnait ces fins de vie, ces gens qui étaient seuls, sans famille, et nous, on était là jusqu'à leur dernier souffle à les mettre dans des sacs plastiques, parce que c'est la première chose que le gouvernement nous a envoyé. Avant de nous envoyer des masques, elle nous a envoyé des sacs plastiques pour mettre les corps dedans. C'est des sacs mortuaires, mais on le dit comme on le pense, mais nous on le voyait comme des sacs plastiques.
Voilà un peu ce que a été pour eux aussi leur métier, quoi. À ce moment-là, on est vraiment sorti de Covid, je disais tout à l'heure, et là on se retrouve à faire face à tout ça, et avec une direction. D'ailleurs, il y avait une petite chose assez intéressante, puisque elles sont à peine à première semaine de grève, on leur dit vous êtes bien contents de toucher votre salaire. C'est quand même assez incroyable qu'une direction leur dise ça, quoi. C'était la deuxième semaine de grève. Ce qu'on vient d'entendre quand même est assez fort, et ça dit en même temps des choses assez précises sur ce fonctionnement, je trouve, de ce secteur, je trouve.
Et c'est d'autant plus fort quand on regarde les comptes après et qu'on voit que pendant le Covid, ils ont fait des bénéfices records. Bah, on comprend, voilà, avec ces dames qui nous expliquent comment ils ont été faits. Ils n'ont pas remplacé les gens malades, ils ont été à flux tendu, ça a été dingue, quoi. Il n'y avait aucun contrôle, donc ils ont exploité à donf tout. Ils ont tiré sur tout. Et en fait, c'est... Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, Siam me le dira dès qu'elle va arriver, mais ça a été des chiffres colossaux, ouais. de bénéfices et de dividendes qui ont grimpé pendant que les salariés vivaient ça, ce qu'elles viennent de dire. C'est-à-dire mettre des gens morts dans les sacs en plastique, qui n'avaient pas pu voir leur famille, qui sont mortes seules et en étouffant, parce qu'on meurt en étouffant du Covid, hein, et il n'y avait plus de médicaments pour endormir les gens. Donc c'est des agonies terribles. Elles ont vécu ça, les filles, et les gens, bien sûr, mais les filles, elles ont vécu ça, ce qu'elles racontent là, et même ce qu'elles racontent pas, en fait. Ouais. Donc moi, ça me met en colère encore maintenant, quoi, d'entendre ça, et de quand je vois les chiffres après... franchement, c'est flagrant. Hein. C'est des pièces qui sont dans le dossier. Donc, c'est vérifiable. Hein. Je pourrais les communiquer, etc. C'est pas des accusations à l'emporte-pièce. C'est des pièces qui sont vraiment dans le dossier, qui ont été présentées au juge et qui seront présentées encore jeudi lors de l'audience à 14h à Pontoise.
On va faire une pause musicale et on vous retrouve toujours dans l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
De lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame en vain sa nourriture. La qualité, la finesse et le style, pas de la pourriture. Donne-moi l'ivresse de pensées claires et limpides, de mots vrais qui vieillissent et ne prennent pas une ride. Je suis bien trop curieux pour me contenter des miettes, rester condamné à n'évoluer, courir des pâquerettes. À l'air permanente, je veux rester réveillé, affûter mes vers pour me défendre sans bégayer. Déjouer les pièges et éviter les raccourcis, vite le temps est mon ennemi si le champ se rétrécit. Donc faut que j'emmagasine, puis que je laisse aller la prose. Sans renier mes origines, et bien avant que je me décompose, vite besoin d'évasion, de source d'inspiration, de toutes ces voix qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim.
Been chasing flavor, foaming at the mouth with the bad behavior. But all I want is a merely a concept to find my path as I find my step. See the kids that seem so famished, they want direction cause their needs has vanished. I'm munching on the clues like a praying mantis. My need for the new shit stay established. Mouth is dry and the word is like pasties. Dark cave, I'm looking for the keys. Not every MC holding knees, but I can break out every time I please. Tomato, pasta, chives and cream. More culture than you ever dreamed. I get my style from feeding my craving, and that's the good shit that you now taste. Oui, j'ai faim. Une faim de crève la dalle, un appétit.
féroce qui peu à peu sort de la cave et qui salive. À l'approche de chaque nouveau niveau, je me renforce, m'endurcis, j'ai les crocs, paroles de Morico. Claque le bec des pédants, des prétentieux. Dans ma bouche, la langue française prend l'accent de la banlieue et c'est tant mieux. Ça dérange, ça devient explicite. Tout d'un coup, les oreilles sifflent car le contenu est illicite. Oui, le prolo s'exprime et le propos est maîtrisé. Incroyable, viens, tu vas te faire ridiculiser. À me prendre pour un con, je crois que j'ai fini par comprendre. Si le savoir est une arme, maintenant voilà ce que ça engendre. J'irai pécho les munitions dans les livres, au cinéma, sur le net, au théâtre comme au bistrot, pas de chez moi. Et je te pilonnerai d'un ton froid et ferme, conscient de la puissance d'une idée qui arrive à terme. J'ai faim, faim, faim.
Eh bien, de retour dans l'actualité des luttes sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et ce jusqu'à 13h30. Et aujourd'hui, on parle de la suite de la grève qui a eu à l'EHPAD du Château de Neuville dans le Val d'Oise. Et notre invité est arrivé. Bonjour à toi, Siam.
Bonjour, je suis désolée.
Non, t'inquiète, bienvenue en tout cas dans nos studios. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on t'a entendu à plusieurs reprises, mais voilà.
Mais physiquement.
Oui, voilà, donc c'est un plaisir de te recevoir. Avec Eugénie, on a un peu discuté de la...
On a meublé, mais on t'attendait.
on a parlé un peu de la poursuite aussi de la liberté d'expression au niveau presse.
Qui est un très
Et avec toi, on va revenir sur ce qui... Sur ton propre sujet aussi pour toi, c'est-à-dire cette poursuite toutes les deux pour diffamation. Mais peut-être avant, je voudrais que tu te présentes.
Alors, je m'appelle Siam Toisy, je suis infirmière de formation depuis bientôt 23 ans. J'ai travaillé à l'hôpital, mais j'ai aussi travaillé dans un EHPAD privé. Pour des raisons familiales, j'ai souhaité me rapprocher de la maison. Et puis, le secteur du grand âge, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis quelqu'un d'engagé, déjà, avant même le militantisme syndical qui m'a rattrapée. J'ai toujours activement œuvré dans le milieu associatif ou en tant que parent d'élève. Donc, c'est pas tombé par hasard tout ça. Voilà, j'ai 3 enfants. J'ai par ailleurs aussi des engagements dans ma ville. Voilà, donc plein de choses. Mais c'est aussi ce qui explique peut-être l'acharnement dont je suis la victime.
Ouais. Tu as travaillé pendant 12 ans dans l'EHPAD du Château de Neuville. Comment tu es arrivée dans cet EHPAD, du coup ?
Alors, comme j'expliquais, mère de famille avec un mari très absent, ce qui est le lot de beaucoup de femmes. Donc, il fallait absolument que j'articule mon emploi du temps avec ma vie de famille. Donc j'ai choisi de me rapprocher du domicile parce que j'étais sur un hôpital assez lointain et j'ai vu une annonce sur un EHPAD pas très loin. J'ai postulé, j'ai été prise et j'y ai fait un petit bout de chemin. Déjà principalement ce qui me permettait d'avoir cette articulation, mais j'aime profondément mon métier, c'est vraiment infirmière, c'est le prolongement de ce que je suis. Et j'ai toujours pris énormément de plaisir à aller travailler. Et je passais du public au privé. Je n'avais pas compréhension du droit du travail ou de ce dont on avait le droit ou pas. Dans le public, on est particulièrement préservé, en tout cas sur cet aspect-là. Donc, jusqu'à ce que je décide, ou en tout cas qu'on me pousse à devenir représentante du personnel, j'arrivais à naviguer sous les radars.
Alors donc, vous décidez le 3 janvier 2022 de partir en grève pendant 133 jours à l'EHPAD de Neuville. Cette grève s'organise. Bon, on en a un petit peu parlé des péripéties qu'il y a eu. Donc, et là, vous êtes poursuivies toutes les deux d'ailleurs. Vous êtes poursuivies.
Je suis désolée. Elle est poursuivie bien avant moi. Elle est harcelée.
Oui.
Qu'elle parle de.
Voilà, j'aimerais effectivement que tu exprimes un peu comment tout ça arrive, quoi.
La grève, c'est juste un chemin, c'est une trajectoire. Mais avant que la grève arrive, je suis élue déléguée du personnel bien avant que Emmanuel Macron décide que ça n'existe plus et qu'on passe au CSE.
Et CSE,
c'est comité social et économique
d'entreprise
pardon Et donc, je suis déléguée du personnel, je n'ai absolument aucune expérience et je suis avec d'autres collègues qui, elles aussi, n'ont pas d'expérience, mais on se sent légitime parce qu'on a été poussé par les autres salariés. Et puis, on apprend au fur et à mesure, on essaye de se former à côté, on ne comprend pas grand-chose, mais on commence à se rapprocher de la CGT qui, elle, nous forme. Et plus on monte en compétences et plus on nous attaque et plus on nous tape. Et on nous tape fort. Et comme je suis la secrétaire du CSE, c'est-à-dire que c'est moi qui rédige les comptes rendus de cette instance, qui est l'instance de démocratie, on va dire, de concertation à l'intérieur de l'entreprise, qui est censée l'être, je suis la personne visée. Donc je subis, je crois, toutes les sanctions qu'on peut avoir dans le code du travail. On tente de me licencier à deux reprises, je suis à chaque fois rattrapée, on fait faire des attestations à charge de salariés extrêmement vulnérables, parce qu'on est dans un secteur de métier où ce sont essentiellement des femmes, ouais. Des femmes vulnérables, et qui se retrouvent souvent mères solo, et dont l'employeur a une forme d'emprise quand il n'est pas bienveillant, et dans notre cas c'était exactement ce qui arrivait. Et donc on a attesté contre moi, on a fait un droit d'alerte contre moi, je sais pas exactement, je pourrais pas dénombrer, on m'a emmené au tribunal un certain nombre de fois pour pouvoir me retirer mon mandat.
Des banderoles par exemple ont été fabriquées par les non-grévistes.
Ça c'était effectivement anecdotique. On a tenté de faire renvoyer mon avocat parce que je suis accompagnée d'un avocat depuis quasiment le début, parce que quand on a commencé à s'attaquer à moi, on savait que ce qui était le plus important pour moi c'était mon planning, parce qu'il me permettait d'articuler ma vie familiale, et j'avais un enfant malade, et tous les soins pour cet enfant se centralisaient sur le mercredi. Donc on s'est attaqué très vite à mon planning, et mon ami avec qui j'ai grandi m'a dit bon, je vais t'aider, je vais te faire une lettre, et depuis il est avec moi dans cette galère depuis 4 ans.
Et donc vous décidez de faire un piquet de grève. Vous vous mettez en grève, vous décidez.
On n'a pas le choix. Je suis mise à pied pendant 6 mois. Je ne sais pas si vous imaginez, 6 mois sans salaire. Ça veut dire 6 mois, ça veut dire que même quand j'ai essayé sans salaire d'aller travailler, parce que j'en ai le droit, j'ai fait des vacations, quelqu'un dans l'établissement où je me trouvais l'a dit à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a dit à mes employeurs, et j'ai reçu un courrier recommandé de mes employeurs et qui a été adressé aussi à mon avocat pour me dire « Hop, vous n'avez pas le droit de travailler, on vous surveille ». Et ça veut dire que ce harcèlement, il était dans ma vie professionnelle, mais il était au-delà. J'avais les caméras de l'établissement qui me surveillaient, j'avais des badges. À chaque fois que j'ouvrais une porte et que je devais badger pour ouvrir cette porte, ça indiquait où je rentrais, et il y avait des rapports de mes passages dans les portes. Il y avait des gens qui étaient payés pour me surveiller. Les étudiants infirmiers avaient demandé par la direction, leur demandé de me surveiller lorsque je les encadrais. C'est-à-dire que je ne travaillais absolument pas dans un environnement qu'on peut dire safe, quoi. J'ai vraiment tout autour de moi était là pour me contraindre et me surveiller. Et donc la grève, elle arrive parce qu'il y a le énième bouleversement d'entre notre organisation de travail. Et comme ils n'arrivent pas à me virer moi, donc ils décident d'attaquer toutes les infirmières qui ont refusé d'attester dans ma procédure. Donc changement de planning, mais complètement anarchique, 2 jours ou 3 jours avant Noël. On se rebelle, on essaye de tirer tous les leviers, on n'y arrive pas. Le seul choix qui nous reste, c'est d'aller en grève en se disant « ça ne durera que 3 jours ».
Et finalement, ça n'a duré 133.
Voilà, parce qu'ils ont souhaité faire perdurer et faire pourrir cette situation jusqu'à ce que ça s'enlise, et surtout jusqu'à ce qu'on lâche.
Tous les moyens ont été utilisés. Hein.
Je crois qu'ils pourraient faire un anal. Je crois qu'ils pourraient décider de créer des formations pour les employeurs pour comment détruire une grève. Ils ont fait faire une pétition des salariés vulnérables à l'intérieur de l'établissement contre nous, et ils l'ont affichée sur la porte principale. Alors ces pauvres filles qui avaient subi des contraintes pour signer cette attestation se voyaient offrir tous les jours en passant la porte cette pétition qu'ils avaient été contraintes de signer, alors que nous étions sur le piquet juste à côté. Ils ont fait faire par les salariés, ça on a des attestations qui le prouvent, des banderoles sur le temps du travail par des salariés où ils indiquaient qu'elles se désolidarisaient de nous. Et en fait, un matin, on arrive sur le piquet, il y a d'énormes banderoles qui ont été créées et qui ont été apposées sur le le mur du château qui donnait sur notre piquet de grève. Ils ont été distribués des tracts aux riverains, aux Neuvillois, la ville où se trouve l'EHPAD. Ils ont écrit aux familles pour dire qu'on était de toute façon absolument minoritaire et qu'on était de dangereuses révolutionnaires. Ils ont écrit aux salariés pour essayer de nous désolidariser. Je veux dire, pendant le piquet, on a été au tribunal deux fois. Je crois que j'en manque beaucoup parce que quasiment tous les deux, trois jours, nous avions un événement sur le piquet pour pouvoir nous...
Mais alors tout ça, moi, j'entends ça, ça me met toujours autant en colère, hein, Siam. Mais comment dire, c'est des atteintes au droit de grève, des atteintes au droit du travail, du harcèlement. Tu as été au prud'homme, j'imagine.
J'ai été Alors, ben, c'est très récent. C'était très récent. Mais,
Peut-être avant, il y avait aussi l'inspection du travail qui avait été...
Ah oui, alors l'inspection du travail, dès le début, c'est-à-dire que quand on est devenu délégué du CSE et qu'on n'arrivait absolument à ne pas faire bouger les choses dans l'établissement, parce qu'on souhaitait une étude RPS, une étude sur les risques psychosociaux, parce qu'à l'intérieur de l'établissement, il y avait beaucoup de... Vous arriviez le matin, la collègue avec qui vous deviez travailler, elle avait abandonné son poste, tout bonnement. Beaucoup de démissions, beaucoup de dépressions, beaucoup d'accidents de travail ou de maladies. Et donc, on a demandé à ce qu'il y ait une évaluation du travail qui soit faite par un organisme tiers et qu'on puisse y amener vraiment une espèce de naïveté sortie de nulle part où vous pensez réellement qu'avec vos petits bras, vous allez pouvoir faire changer les choses. Et tout a été teinté de ça. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on a cru réellement qu'on allait pouvoir faire changer les choses.
Et donc arrivent les prud'hommes aussi.
Alors,
du coup, là,
évidemment, l'inspection du travail ne nous a jamais lâchés. Quand je dis l'inspection du travail a à chaque fois relevé toutes les écarts graves au code du travail, on n'avait pas la possibilité de prendre nos vacances. On est parti avec des reliquats de 4 ans de vacances. On avait jusqu'à des 150 heures supplémentaires parce qu'on ne nous payait pas nos heures supplémentaires. On nous faisait faire prendre nos heures, mais on ne pouvait pas les récupérer. Et c'était beaucoup, beaucoup des cas réglementaires. L'inspection du travail nous a accompagnés et nous sommes arrivés au prud'homme vendredi, donc c'était notre audition, ça y est, c'était l'audience, on l'a
le 31 janvier
on l'a tant attendu parce que la fin de la grève a été épique
quand on sait que les prud'hommes c'est long aussi
c'est très long. C'est très long, c'est souvent je pense il faut être armé, accompagné et surtout ne pas vouloir lâcher parce que tout est fait pour qu'on lâche. Donc on a eu notre audience vendredi, c'était empreint vraiment d'émotion parce que nous étions toutes là les 7 et on nous a raconté par l'extérieur, par les avocats, nous a raconté notre histoire, ce qu'on a vécu, on l'a vu, on l'a dépersonnalisé et c'était extrêmement émouvant de l'entendre et de voir que on a subi tout ça et malgré tout on a continué, on a essayé d'aller au bout de cette lutte. On l'a arrêtée parce qu'on n'a pas eu le choix, c'est le préfet qui a été mandaté pour pouvoir négocier, qui nous a fait sortir en sortant moi en premier et ensuite en sortant les autres. Mais on n'a pas lâché et le prud'homme, on attend maintenant les résultats dans quelques mois.
Tu comparaissais seule ou il y avait d'autres collègues ?
Là, cette fois-ci, j'étais pas toute seule. Donc j'étais avec toutes mes collègues du piquet. On a fait une action collective. Moi, j'ai un seul avocat parce que c'est l'avocat qui me suit depuis le tout début de mes histoires. Il y a bientôt 3 ou 4 ans. Et mes collègues ont le même avocat qui se trouve être ma pénaliste pour mon affaire du 6.
Tes collègues qui étaient en grève, elles sont toujours dans cette EHPAD ou elles ont...
Non, tout le monde est parti. Quand on est parti, en fait, on était arrivé à un point de rupture tel qu'il n'y avait absolument aucune possibilité de s'en sortir. Donc le préfet a été mandaté par le président de la République. C'était épique. Mais il m'a fait sortir. On est toutes sorties et elles ont toutes retrouvé du travail dans des lieux où elles se sentent pour la plupart complètement épanouies, même si elles continuent à avoir des stigmates de ce qu'elles ont vécu au château.
Vous êtes toujours restées en contact.
Oui, mais ça, c'est le lien de la lutte, c'est un lien de sang, quoi. C'est quand on se regarde, on se comprend, quand voilà, elle... C'est très fort.
Non, mais c'est vrai qu'on le redit ici, hein, la grève, il n'y a rien de mieux hein, quand même pour se regarder quoi, et puis pour agir ensemble. Quoi. Ouais. Nous, on l'a vu sur d'autres grèves, c'est là que les choses s'expriment. Quoi, ouais. Parce que c'est vrai qu'on est, on est quand même retenu dans le travail que nous faisons, on est isolé, beaucoup, ouais. On est dans beaucoup de travaux isolés. Et là, du coup, quand il y a la grève, là, c'est, on se parle. Moi, j'ai le souvenir de ce piquet de grève où j'étais venu. Ouais. C'était quand même, il y avait une bonne ambiance. Quoi.
C'est ça.
Les gens passaient.
On n'était pas, voilà. pas abattus. C'était, en non. plus, c'était une lutte de femmes. Hein.
Oui.
Alors, pour depuis avoir être passé sur d'autres piquets, des piquets de l'industrie ou des piquets d'hommes, etc., c'est différent. C'est-à-dire que on se laissait pas abattre. C'était effectivement, on avait froid parce qu'on était passé sur un hiver extrêmement.
Comme aujourd'hui. Hein,
ouais, comme... il faisait très froid. On n'avait pas beaucoup de perspectives. Mais ce qui nous a maintenus, je pense qu'il y avait un lien de sororité entre nous très fort.
Ouais.
Qui faisait que quand il y en avait une qui allait pas bien, ben, les autres essayaient de lui remonter le moral. Et on n'a jamais lâché. En tout cas, moi, j'y ai toujours cru. Et je continue à croire qu'on peut faire changer les choses. Alors, à moindre mesure, je suis quand même revenue sur une forme de réalité et j'ai mis de côté un peu le déni que j'avais initialement. Mais je crois qu'on peut faire changer les choses. Petit à petit, on peut faire changer les choses. Et donc, les filles, c'était important que je donne le là. Quand j'arrivais sur le piquet le matin, il fallait que je sois toujours au taquet, de bonne humeur, etc., avec une énergie qui portait les autres, parce que ça permettait de se poser sur moi. Même si ça a été... aujourd'hui, c'est moi qui suis le plus attaquée. C'est moi qui n'ai pas refait ma vie professionnelle parce que je suis sans travail, sans ressources, déclarée RQTH, donc reconnaissance de travailleur handicapé du fait de tout ce que j'ai subi, de tout ce que j'ai subi. Mais même tout ça m'a pas détruit. Même tout ça m'a pas détruit.
Oui, mais tout ça, ça se paye. Enfin, je sais pas, il y a un moment quand même, ça t'a pas détruit, pardon. Hein. Mais moi, ça, c'est quand même, c'est pas juste.
Ouais.
T'as porté ça pas pour toi. En non, plus, tu demandais pas de la thune, tu demandais pas de l'argent, ouais. Tu demandais à faire ton travail correctement. Voilà. On l'a déjà dit, mais je le redis devant toi.
Oui,
tu demandais juste à ne pas. Ne te force pas institutionnellement à être maltraitante.
Absolument.
En fait. Et c'est fou que tu doives quand même. RQTH, il ne la donne pas comme ça. C'est vraiment que ça t'a laissé des grosses traces. Donc,
absolument.
Il faut qu'il le paye, ça, je trouve. Il devrait pouvoir te. On rembourse jamais ça. Mmh. Mais à un moment, il faudrait que ça leur coûte aussi.
Alors. Ils sont tellement puissants.
Mais je sais, Sia, mais quand même, quoi, c'est pas normal.
Et la puissance, c'est de moi qui pourrait être considérée comme une lanceuse d'alerte, parce qu'il faut quand même dire qu'on est sorti avant que le livre Le Fossoyeur. On dit qu'on, voilà, alors la direction dit qu'on l'a instrumentalisé, mais ce qu'on a dénoncé 15 jours avant que le livre de Victor Castanet sorte, c'était notre réalité. Donc, et c'est moi qui suis poursuivie le 6, c'est moi qui dois engager des frais de justice, même si la CGT est à mes côtés, c'est moi qui dois construire un dossier, c'est moi qui dois me défendre, c'est moi qui va être salie samedi, où on va m'affubler de tous les adjectifs qualificatifs horribles, de la harpie, de la... tout, c'est-à-dire que j'ai lu des extraits d'attestation, c'est du fiel, quoi, contre moi.
Mais de toute façon, comment on peut demander des attestations à des gens qui, sans même parler d'emprise, tu vois, qui ont un lien de subordination?
Toutes
c'est
les
pas
attestations
possible.
Du 6, parce que maintenant, on n'a même plus de lien de subordination, les attestations qui sortent du 6, ce sont des prestataires, des gens qui travaillent pour eux, ou même des associés. Et c'est pire que ça, c'est des gens qui ne me connaissent pas. C'est des gens qui ne m'ont jamais rencontré et qui disent des choses horrible sur
souvent
moi.
Sur la vie privée aussi.
Et je vais être attaquée sur la vie privée. On va même m'attaquer, j'ai lu un passage sur le racisme. Quand
d'accord.
on connaît mon engagement, quand on connaît ma vie, quand on connaît les miens.
Tu serais raciste.
Oui, parce qu'on a extrait des conversations. Comme on a les gens ont donné des conversations WhatsApp, privé, extrait. Vous sortez un mot, un élément, et vous en faites. Et moi, j'ai l'avocat de Valeurs Actuelles.
Oui.
Qui va me taxer de raciste.
Ouais, c'est quand même assez savoureux.
C'est horrible.
Oui, mais c'est l'inversion de culpabilité.
Complètement.
C'est...
On est vraiment dans une inversion totale des normes, quoi. Et en fait, Ils vont venir à la DAP, à la barre, parce que je ne sais pas si Clara te l'a dit. On a cinq témoins qui viennent à la barre, dont la propriétaire, la directrice d'exploitation, le médecin coordinateur qui a joui de toute cette atmosphère pour pouvoir justement ne pas lui rendre de compte. Un responsable des cuisines Elior et une auditrice.
Oui. Donc ces gens-là, mais il y a aussi un cuisinier qui vient aussi te défendre.
Et c'est le cuisinier qui était en poste à l'époque et qui lui affirme qu'il a été contraint de rationner. Là, on vient avec un directeur d'exploitation de région, c'est différent. Mais ces gens-là vont venir à la barre pour me salir.
Ouais. Finalement, ça pourrait être un...
Pardon. Allez-y. Non, mais il y a... Non, c'est juste... C'est vrai que tout ça, c'est terrible. Enfin, moi,
c'est injuste.
C'est injuste et terrible. Mais ceci dit, de l'autre côté, t'as aussi plein de gens qui te soutiennent. Ouais. Au premier truc, il y avait quand même beaucoup de politiques qui étaient là. Taubira est venu vous voir sur le piquet de grève. Philippe Martinez est sorti de sa retraite pour venir. Ouais,
il sera là aussi.
Et donc, il y avait pas mal de presse. Il y a... Enfin, je veux dire, la justice, il faut y croire, quoi. C'est comme pour d'autres combats, comme la Palestine.
Après,
il faut y croire.
Après, juste quand même, la justice, hein, elle est faite par les puissants pour les puissants. Donc, il faut aussi être vigilant sur ce qui peut se passer sur la toile. Mais en même temps, moi, je me disais aussi que ça pourrait être un procès qui pourrait servir aussi pour d'autres EHPAD. Je pense que la politisation, je pense qu'elle est aussi importante dans ce qui va se passer jeudi aussi.
Alors, les camarades de la CGT Val-d'Oise, en tout cas de la santé, nous disent souvent merci pour la lutte que vous avez pu faire, parce qu'à chaque fois qu'on va en négociation et que ça dérape, on leur dit toujours, mais on va faire comme au château de Neuville. Et les négociations se passent beaucoup mieux, et grâce à ça, ils arrivent à avoir des avancées, et ça fait chaud au cœur d'entendre quand elles disent ça. Elles disent encore aujourd'hui, votre lutte, elle est emblématique de quelque chose, en tout cas sur le territoire. J'espère sincèrement que ce tribunal qui normalement est là pour me condamner et en tout cas me salir servira à montrer à quel point on est dans la démesure et que face à moi j'ai des gens qui ont tout pouvoir, tout argent et qui veulent écraser une petite militante qui pensait toute petite, toute petite, toute petite, et qu'ils ont bien, bien essoré, mais à qui il reste un peu de vitalité, en tout cas pour se défendre.
Il y a eu...
Ça dit beaucoup aussi, tu vois. Ils veulent écraser une personne seule, une personne qu'ils croient isolée.
Ils croient
isolée. Ni seule, ni isolée, ni toute petite. Ça, j'y tiens. Et ils veulent aussi écraser une radio qui est toute petite, parce qu'ils n'ont pas attaqué les gros.
Ça.
C'est vraiment, enfin, tu vois, la lâcheté à l'œuvre. Quoi.
Voilà.
Il y a eu, il y aura l'audience d'autres secteurs qui vont venir de la santé. Je pensais hôpital, d'autres EHPAD peut-être en région qui vont venir.
Alors. On n'est jamais sûr assuré des gens qui viennent, mais effectivement, moi, j'ai des camarades de tout secteur qui viendront. Alors, j'ai beaucoup d'anciens camarades qui n'ont jamais souhaité aller au prud'homme ou en tout cas dénoncer ce qu'ils avaient vécu à l'époque et qui ont vécu notre lutte vraiment par procuration sur notre piquet. On avait tous les jours 2-3 anciens salariés qui étaient partis depuis 5-10 ans, etc., mais qui revenaient et qui eux aussi dénonçaient ce qu'ils avaient pu subir. On va avoir des gens du secteur de l'hôpital, mais on va avoir des gens de l'industrie. On va avoir aussi des camarades cheminots. On va avoir de tous les secteurs. Parce qu'en réalité, ce qui se joue derrière tout ça, c'est la lutte de classe.
Et oui, et non pas la lutte des places.
Ben voilà.
Je crois que c'est ça qui est important.
C'est ça.
Il faut le rappeler, hein, parce que j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu oublié. Mais il faut vraiment aujourd'hui que la lutte des classes, elle revienne au premier plan, quoi.
Et puis, ce n'est pas un gros mot, hein, parce que quand je le dis, souvent, les gens rigolent. Mais ce n'est pas un gros mot et c'est la réalité. Et ça correspond exactement à ce que je vis. Hein.
Et en même temps, au tribunal, j'invite vraiment tout le monde, tous les journalistes à venir aussi. Hein,
ouais.
Parce que là, la lutte des classes, elle sera vraiment mise en scène. C'est-à-dire qu'on verra la marque des chaussures de Madame de Machin et puis nous, de l'autre côté, en fait. Hein, on va voir un peu voilà, qui parle comment, qui a quelle valeur. Ça va éclater au grand jour. Et vraiment, je souhaite que ce soit aussi ça.
J'espère.
Alors, juste quand même, parce que ça me fait repenser. Comment, sur les revendications, s'est terminée cette grève, du coup ?
Alors, sur les revendications, nous avons obtenu le réglementaire, ce qui était parce que, justement, ils ont été repris par l'inspection du travail et ils ont été contraints de donner les vacances à tout le monde. Ils ont été obligés de rendre les heures à tout le monde. Nous sommes sortis, l'entreprise a été vendue, l'activité, ils ont gardé les murs du D'accord. château, ils ont vendu l'activité, celle d'Herblay et celle de Neuville, et le repreneur semble beaucoup plus vertueux. Et tout ce qu'on a demandé, ils l'ont obtenu avec le nouveau repreneur. Donc les filles qui sont restées là-bas, et parce que beaucoup sont parties, mais celles qui sont restées là-bas, je crois, jouissent de conditions de travail meilleures. Après, effectivement, il y aura toujours des choses à redire sur le grand âge et la façon dont c'est géré par l'argent en France.
L'or gris, on appelle ça. L'or gris.
Mais c'est ça aussi la lutte, parce qu'il y a la lutte des classes d'une part, et il y a la lutte contre la fin d'un service public qui devrait être un service public Exactement. Du grand âge, comme un service public de la petite enfance, comme du transport, comme de tout, en fait. Et en fait, dès qu'il y a possibilité de faire de la thune, parce qu'ils ne sont pas privés d'en faire, hein,
Et puis beaucoup.
Voilà. C'est ça qui ne va pas aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce procès, il serve à montrer ce que c'est que ces entreprises qui sont là pour tirer les coûts au minimum, pour vraiment essayer de faire un maximum de profit sur des gens qui mériteraient d'avoir une fin de vie heureuse.
Bah, les EHPAD, parfois, c'est un peu le loup dans la bergerie, hein, dans le fonctionnement, puisqu'on avait les maisons de retraite qu'on a pu connaître par nos parents ou autres. Et là, arrivent les EHPAD, et bah, eux, ils veulent une rentabilité directe tout de suite.
C'est un taux de rentabilité. D'ailleurs, je suis poursuivie aussi pour ça, pour avoir dénoncé le taux de rentabilité. Et en fait, je me suis rendu compte avec les experts que la CGT m'a donné, que j'étais bien en dessous de ce que j'annonçais. Ouais. C'est-à-dire qu'on me poursuit pour un chiffre, mais j'étais bien en dessous. Et ce qui est délirant, c'est qu'on me poursuit, que dorénavant, je vais pouvoir mettre en lumière la réalité des chiffres. Ce qui est aussi, c'est la note positive aussi, c'est que nos institutions, elles existent. L'inspection du travail a fait son travail, a tellement bien fait son travail qu'elle a rédigé un PV qu'elle a confié au procureur de la République pour poursuivre mes employeurs pour harcèlement et discrimination sur 2 ans à mon encontre. Donc, d'un côté, j'ai un procureur qui me poursuit jeudi pour des faits de diffamation, et dans le même tribunal, j'ai un autre procureur qui a dans la main un dossier sensible pour poursuivre ces personnes qui me poursuivent. C'est lunaire.
Ah oui, c'est...
Et les deux affaires n'ont pas été liées. C'est lunaire, effectivement.
Elles ne sont pas liées.
Pourquoi elles ne sont pas liées ?
Parce que d'un côté, quand vous faites des mises en examen pour diffamation, elles sont de facto poursuivies.
Oui, c'est le droit de la presse. Donc du coup, je pense aussi que le fait qu'ils arrivent à m'avoir moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, fait, ça sert à pouvoir te poursuivre devant cette instance de droit
Exactement.
De la presse, alors que sinon, ils auraient été obligés de... Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu... Voilà, c'est tombé sur moi, ça ne serait plus tombé sur toi.
Ça aurait pu, oui. Voilà. Mais ils ont un avocat.
Mais d'où l'importance d'être assez présent. Je dis, on rappellera en fin d'émission... Effectivement, D'accord. le rendez-vous, parce que je crois que c'est important, hein, ça touche beaucoup, ça parle de beaucoup de choses. Toi, comme tu le disais, effectivement, c'est compliqué. La suite a été un peu compliquée financièrement et autres.
Elle l'est encore.
Il faut souhaiter que ce procès aussi puisse, aussi quelque part, tu puisses un peu retomber, d'avoir une vie à peu près. Normal, j'allais dire. Voilà.
J'aimerais bien avoir eu... Alors, vous voyez, ce matin, j'arrive en retard parce que j'ai des problèmes de transport, parce que je suis en grande banlieue, mais c'est aussi parce que j'ai eu un long débriefing avec mon avocat. Et j'aimerais bien une vie normale où les gens disent... Ah, voilà, je serai toujours une militante. Je serai toujours, j'aurai toujours dans mes fondamentaux les questions d'égalité. Ça, c'est quelque chose qui s'inscrira. Mais j'aimerais bien aussi avoir un peu de légèreté.
Ouais.
Et la légèreté, manque
cruellement. C'est super important. C'est super. La légèreté, il en faut aussi. Dans ce monde un peu confus dans lequel nous vivons actuellement, de temps en temps, d'avoir un peu de légèreté, c'est pas mal. Parce qu'en face, nos adversaires en face, eux, ils ne se gênent pas. Ils ont tous les moyens financiers pour pouvoir faire. Et nous, de l'autre côté, on fait avec ce qu'on peut. Quoi. Ouais, et des fois, ce n'est pas toujours simple. Mais comme tu le dis aussi, c'est d'avoir... Et ça devrait faire aussi comprendre... Je dirais plus largement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir reprendre nos affaires en main aussi. Ouais. Collectivement, il va falloir reprendre nos affaires en main parce qu'en face, on est plus nombreux, les prolétaires, on est plus nombreux, on a moins de choses, c'est vrai. En face, ils sont moins nombreux, mais ils ont le pouvoir financier, pas pouvoir. Ils ont ce truc-là, ce levier-là. Et ça, il faut effectivement essayer d'inverser les choses. Après, ça, c'est une autre chose, mais bon,
c'est,
voilà.
Non, c'est lié. Moi, je crois que c'est lié. Quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, alors évidemment, on va me dire, oh là là, tu fais des digressions politiques, mais tout est politique. Mmh, et là, en l'occurrence, pour moi, c'est de la politique. Oui. Parce que quand vous avez des propriétaires ultra riches, ultra puissants, qui s'attaquent à une forme d'expression à l'intérieur d'une entreprise, et l'entreprise, c'est la représentation du monde, quoi. Bien c'est les échanges qu'on a en entreprise, c'est ceux qu'on pourrait avoir à l'extérieur. Donc quand la brutalité elle est à ce point forte, c'est cette brutalité aussi qu'on voit à l'extérieur. Et quand on voit un Trump qui arrive aux affaires et qui met les plus grands chefs d'entreprise avec lui autour de lui, c'est un modèle de gouvernance qu'on risque d'avoir si justement on se mobilise pas et qu'on
un petit salut néo-nazi au passage. Voilà,
ce n'était pas ça, c'était un salut.
Ouais, c'était ouais.
Ah non.
Voilà.
Non,
mais je crois que c'est important de se ressaisir de tout ça. Et de pas se laisser écraser, parce que sinon qu'est-ce qui va se passer? Mais effectivement, ça peut se faire aussi avec de la légèreté. Je crois qu'il faut essayer de mixer les deux.
C'est ça.
Je crois que c'est vraiment important. Donc vous allez comparaître toutes les deux. Comment vous avez travaillé un petit peu ensemble? Racontez-moi un petit peu dans les quelques minutes qui nous restent un peu comment ça s'est passé.
On a préparé un petit peu. Oui effectivement. Ouais. Après voilà c'est moi je suis surtout enfin très choquée de ce qui est arrivé à Siam. Moi c'est un petit peu un dégât collatéral
on
va dire. Hein.
Malheureusement je suis désolée.
Mais alors vraiment ne sois pas. Vraiment fière d'être à tes côtés.
On fait de l'information. En réalité. Nous faisons de l'information.
Je l'ai déjà
aussi,
dit. Je le redirai. Ouais. Je suis vraiment fière d'être là parce que ça m'associe un peu à ce combat qui pour moi est exemplaire et héroïque.
Merci.
Et en fait, vraiment, hein, je suis particulièrement sincère. Après, voilà, moi, j'espère que ça va aussi être le moyen de démontrer qu'on ne peut pas s'attaquer à la liberté d'expression et à la liberté journalistique comme ça, impunément. Que ce n'est pas parce qu'on est dans une radio associative qu'on peut subir des procédures bâillons, qu'il y a encore un droit de la presse, qu'il y a encore une liberté de la presse, et que si elle avait parfaitement le droit de dire avec moi, sur l'antenne, ce qu'elle a dit. Et
bien
ce serait déjà vraiment... Parce qu'en plus, je le disais, mais tu n'étais pas encore arrivé. En fait, ce qu'on a dit, comme tu l'as rappelé, on est en dessous de la vérité,
oh là
en
là,
fait.
Mais tellement
en dessous de la vérité. Donc, je veux dire, il y a tous les moyens pour qu'on gagne, en fait.
Ouais.
Voilà, pour qu'il soit condamné à payer nos frais de justice. Voilà, enfin, je veux dire, pour qu'il perde. Il faut qu'il perde. Il ne faut pas que ce soit possible, aussi pour la liberté syndicale.
Alors,
c'est très à la mode de faire condamner les représentants syndicaux. Il faut que ça s'arrête.
Alors, on va rappeler le rendez-vous, très important. Hein. Donc, ça sera ce 6 février 2025 au tribunal judiciaire de Pontoise, à 12h. Alors, il y aura une...
Alors, 12h, c'est la conférence de presse.
Voilà.
Et après, on commence à se conditionner et on rentre à 13h dans la salle. Alors, c'est un report parce qu'on avait une audience au mois de mai où on était prêt, où on était installé. Et la partie adverse n'a pas souhaité... alors que c'est eux qui me poursuivent et que ça faisait des mois que la date était connue. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Et une demi-heure avant l'audience, ils ont envoyé une trentaine de pièces, des attestations, bien évidemment, contre moi. Donc, ce qui a fait que nous avons été contraints d'avoir un report de cette audience au 6 février et je pensais que c'était très 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 loin et le très très loin ben c'est bientôt maintenant.
C'est bientôt.
Voilà, donc en plus de faire des procédures au bâillon, ils font des actes dilatoires.
C'est
qui sont formidables.
Totalement.
En fait.
Ah mais là c'est grande le grand théâtre de la justice, c'est toujours un peu ce côté-là.
Moi j'y crois encore à la justice et je veux vraiment, enfin je sais pas si ce sera la même juge, j'espère hein, a priori, voilà que j'aimerais vraiment qu'on puisse être entendu. Voilà et que la vérité se fasse jour.
En tout cas, l'actualité des luttes sera présent et
merci,
ça c'est tout à fait logique.
Depuis le début, et vraiment, je tiens à le souligner, ça a été un plaisir, non, un honneur de répondre à vos interviews pendant la lutte. Et c'est vrai que ça nous faisait toujours plaisir parce qu'on le relayait à chaque fois qu'on a pu répondre à une interview et qu'on relayait à des camarades. Et ben, ça donnait de l'énergie au piquet. Ça a l'air de rien, mais ça porte. Et puis, ça donnait du courage aux autres camarades qui pouvaient entendre les interviews. Donc, c'est pas anodin.
En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie d'être venu. Et aujourd'hui, on parlait de la suite de la grève qu'il y avait en 2022 à l'EHPAD du Château de Neuville. Et donc, on rappelle donc cette date du 6 février 2025 à 12h avec une conférence de presse. Et ensuite, 13h, entrée au tribunal. Merci à vous, en tout cas. Merci d'être venu.
Elle s'appelle Siam Toisi. Elle est formidable.
Merci.
Merci. Et nous, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à Madeleine pour la technique.
Merci.
Et à très bientôt. On vous retrouve pour une prochaine émission de l'actualité des luttes. Salut.
Revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects. I wanna be high now. Wait a minute.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.